Hello everyone.
Bonjour à tous.
Can I get the CCWG co-chairs and rapporteurs up to the front table, please? We're going to get
Pouvons-nous demander au co-président et du CCWG de venir au podium, s'il vous plaît?
Hello everyone, we will be beginning shortly.
Léon Sanchez prend la parole. Bonjour à tous. Nous allons commencer très prochainement. Nous nous excusons du retard. Les coprésidents font la clôture de la réunion gouvernementale de haut niveau. Ils seront avec nous dès que possible, mais entre-temps, on peut chanter une chanson.
Okay, so welcome everyone.
Très bien, soyez tous les bienvenus à cette session de participation sur le CCWG responsabilité. Les rapporteurs sont ici avec nous, il y a de nouveaux visages. Il y a aussi nos collègues qui sont là d'habitude. Et l'objectif de cette réunion est de faire un parcours du processus que nous avons suivi dans la construction de l'amélioration de la responsabilité de l'ICANN après transition. Pouvez-vous montrer la première diapo, s'il vous plaît? Comme vous voyez sur l'écran, lorsque le processus de la transition a commencé et l'ICANN a convoqué la communauté dans son ensemble à faire une proposition pour présenter à la NTIA qui serait révisée et approuvée par le gouvernement des États-Unis pour transférer la supervision des fonctions IANA du système DNS à la communauté, il y a eu plusieurs préoccupations qui étaient liées avec ce qui aurait lieu après la transition. Et le gouvernement des États-Unis aura fini son contrat historique avec l'ICANN. Cette relation était perçue vis-à-vis de la responsabilité de l'ICANN. L'ICANN a lancé donc un deuxième processus parallèlement au CCWG et au reste des activités des communautés au sein de l'ICG pour aborder ces questions de responsabilité. Et on a constitué statutairement un groupe de la part de 6 organisations et nous avons commencé à travailler en décembre 2014. Diapo suivante. Comme vous voyez, cette ligne de temps nous montre comment, depuis 2014, au mois de décembre, nous avons commencé à travailler dans les questions liées à l'amélioration de la responsabilité de l'ICANN. Vous voyez ici des lignes parallèles. Il y a l'annonce de la NTIA avec sa volonté de finir sa relation contractuelle avec l'ICANN. Ceci a eu lieu en mars 2014, c'est bien 2014? Oui, 2014. Puis l'ICANN a convoqué la communauté dans son ensemble pour développer la proposition de transition et le lien avec le CWG responsabilité. Je répète, ce que nous avons fait, c'est un travail parallèle avec les communautés de numéros, de noms et de paramètres de protocole de l'Internet pour aborder les différentes questions, les différentes interdépendances au sein du CWG. Nous avons donc divisé notre travail de cette manière et notre objectif était très clair. Cet objectif, c'est-à-dire, nous devions donner un livrable, à savoir une proposition sur la responsabilité pour toutes les parties prenantes. Ici, nous voyons un effort multipartite et cela est très important. Un effort qui a été fait non seulement au sein de l'ICANN, mais en dehors de la communauté de l'ICANN aussi. Ainsi, on a mené différentes actions liées à la gestion et à l'administration du DNS. Ces questions ont été divisées donc en deux domaines de travail, deux pistes de travail. La première piste de travail a été ciblée sur les mécanismes qui devaient exister, mis en œuvre dans le délai de la transition des fonctions YANA. C'est-à-dire, la communauté a décidé ou a identifié les mécanismes qui doivent exister même avant la transition. Puis, nous avons identifié une autre piste de travail, la piste de travail numéro 2, centrée sur les questions liées à la responsabilité dans le délai pour trouver des solutions et leur mise en œuvre peut aller au-delà de la transition de la supervision des fonctions YANA. Alors, voilà donc les deux pistes de travail et les aspects pour après la transition. Nous planifions et nous élaborons déjà la deuxième étape de travail. Vendredi dernier, nous avons eu une réunion du CCWG at large en personne et nous avons commencé à concevoir une plateforme de travail pour la piste de travail numéro 2. Diapo suivante, s'il vous plaît. Comme je vous disais dès le début de mon intervention, il s'agit d'un effort sans précédent, un effort multipartite. Plus de 200 personnes ont travaillé dans ce groupe avec une distribution équitable parmi les régions. Et il nous faut plus de participants de l'Afrique et de l'Amérique latine, mais toutefois, nous voyons une distribution assez uniforme entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique, bien entendu. Cela illustre la manière dont la communauté multipartite a été impliquée dans le monde entier. Il y a aussi des observateurs de la liste de diffusion. On a échangé plus de 12 000 courriers électroniques. Nous avons eu plus de 200 appels et réunions, ce qui représente plus de 400 heures de réunions. Si on multiplie cela par le nombre de personnes ayant participé de cet effort, on arrive à des chiffres dans l'ordre de 1000 et 1000 heures hommes de travail et heures femmes de travail. C'est un travail immense de toutes les parties prenantes. La prochaine. Bien. Quel est le produit que nous avons livré? Un produit qui a été élaboré après cet énorme travail. Nous avons livré une proposition finale sur les recommandations de la piste de travail 1. Comme je le mentionnais au début de mon intervention, ces recommandations sont relatives aux questions qui doivent être abordées et résolues avant la transition afin de permettre l'amélioration de la responsabilité de l'ICANN. Cette proposition a donc 52 pages et 15 annexes détaillées avec les recommandations proposées. Nous avons inclus un résumé pour le bénéfice du lecteur et aussi 11 appendices. Comme vous le voyez, le document est assez long. Ce document a été traduit dans les différentes langues utilisées dans la communauté de l'ICANN. Nous avons publié des traductions en arabe, russe, chinois, portugais, espagnol et français. Voilà le lien. Prenez note. Prenez note de ce lien. Vous pouvez donc télécharger le document dans la langue de votre intérêt. Diapo suivante, s'il vous plaît. Maintenant, c'est un plaisir pour moi de dire que nous avons reçu l'approbation de 3 parmi les 6 organisations statutaires. On a reçu l'approbation d'ALAC, l'ASO, le SSAC, et il nous reste encore la CCNSO, le GAC et la GNSO. Nous espérons avoir leur approbation également vers la fin de la journée de demain. Et nous avons reçu la confirmation du CWG Supervision que les dépendances qu'ils ont identifiées ont été résolues et que notre rapport satisfait leurs attentes en matière d'interdépendance que le groupe intercommunautaire a identifié en matière de responsabilité de l'ICANN. Maintenant, je voudrais vous expliquer rapidement pour pouvoir après ouvrir la salle aux commentaires et aux questions, parce que ici, nous sommes là pour vous entendre et essayer de vous expliquer, de clarifier vos doutes. Notre proposition est basée sur ces 4 blocs constitutifs qui peuvent être perçus comme les éléments qui sont, à savoir, les principes, les mécanismes de révision et d'appel indépendant, le Conseil de l'ICANN et la communauté habilitée. Les principes sont les statuts. Ce que nous avons fait avec ces principes, ou ce que nous avons appelé notre constitution, eh bien, nous avons proposé de nouveaux mécanismes ici. Il y a l'affirmation d'engagement de ces statuts, les révisions, et on a établi l'engagement vis-à-vis des droits de l'homme. Cela est très important parce qu'il faut comprendre que le respect ne veut pas dire le respect effectivement mis en œuvre. Il faut réfléchir un tout petit peu là-dessus. Nous avons aussi des mécanismes de révision et d'appel indépendant, à savoir l'IRP. À un moment donné, les rapporteurs essaieront d'élargir cette explication. Et nous avons aussi le conseil d'administration de l'ICANN. Le conseil, c'est le pouvoir exécutif. Le mécanisme de reddition indépendante serait le pouvoir judiciaire et la communauté habilitée serait l'organisme législatif, si on fait une analogie avec les États. La communauté a été habilitée avec 7 pouvoirs communautaires. Ici, nous voyons une nouvelle ICANN, pour ainsi dire. Nous sommes dans une nouvelle étape de la responsabilité de l'ICANN, qui, bien entendu, ce n'est que la continuité du travail d'un grand nombre de personnes qui ont élaboré cette proposition. Maintenant, je veux profiter de la participation de nos rapporteurs qui sont ici présents. Jordan, je crois que vous êtes l'expert en matière des principes. Alors, je vous prie de nous aider à expliquer quels sont ces principes. Becky Bird prend la parole. Comme vous le savez, nos statuts incluent actuellement une déclaration de mission et une déclaration des valeurs centrales. Un de nos principales activités au tout début du processus a été l'analyse de ces dispositions et essayer de préciser, de clarifier la déclaration de la mission de l'ICANN et clarifier aussi ses engagements vis-à-vis de la communauté sur la manière dont l'ICANN respecte sa mission et ses engagements. Une des propositions que nous avons apportées à la communauté est une déclaration de mission de valeur centrale et d'engagement remixé. Ceci ne vise pas à élargir la mission de l'ICANN, mais à fournir un patron, un standard, une norme à partir duquel on puisse évaluer le comportement de l'ICANN depuis la perspective de l'ICANN et notamment à travers le processus de révision indépendante. La déclaration de la mission inclut et est explicitement une déclaration des pouvoirs qui sont exprimés explicitement. Ce sont des pouvoirs explicitement mentionnés et l'ICANN ne fera pas la réglementation des services, ni des identificateurs uniques, ni des contenus. Ils affirment aussi l'autorité de l'ICANN de passer des contrats dans le but du respect de son service et de sa mission. Il y a des mises à jour sur la portée de l'autorité de l'ICANN en matière de nombre, de numéros, de protocoles et des noms. Et puis, ainsi que le comité consultatif sur le serveur racine, les engagements principaux et les valeurs fondamentales garantissent l'inclusion des engagements inclus dans l'affirmation d'engagement. Nous avons identifié un engagement vis-à-vis des droits de l'homme dans la mission et les principes. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas l'objectif ici de modifier la mission de l'ICANN, mais par contre, de donner une mesure pour évaluer les actions et les inactions de l'ICANN afin d'être sûr que la communauté pourra voir clairement le rôle de l'ICANN dans l'avenir. Léon Sanchez. Merci, Becky. Vous êtes aussi l'experte à IRT, alors je souhaite la bienvenue au co-président Mathieu et Thomas. Becky, je vous passe la parole encore une fois pour que vous nous expliquiez l'IRP. Becky prend la parole. Comme vous le savez, nous avons un mécanisme de révision indépendant au sein de l'ICANN qui est établi dans les statuts constitutifs. Et le CCWG, dans sa proposition, a inclus des améliorations significatives du processus de révision indépendante qui, effectivement, complète cet outil de la bonne gouvernance à travers un mécanisme judiciaire indépendant, soi-disant. Son objectif est de faire une révision limitée pour évaluer si l'action ou l'inaction de l'ICANN est cohérente ou pas avec la mission et les statuts de l'ICANN. Il y a aussi une disposition d'une révision contraignante indépendante pour le CWG sur la supervision. Au lieu d'avoir trois arbitres, un organisme commercial, etc., il y aura un panel permanent, un panel de révision indépendante qui auront de l'expérience au sein de l'ICANN sur les documents constitutifs de l'ICANN et qui peuvent demander ces documents et évaluer le comportement de l'ICANN au fil du temps de manière informée. Alors, ceci garantit la continuité et la disponibilité de précédents. Autant pour guider les actions des membres du panel dans l'avenir et aussi pour réduire les controverses et les différences au sein de l'ICANN à travers un guide utile fourni à la communauté de l'ICANN au fur et à mesure que le temps passe. Les membres du panel seront sélectionnés par la communauté et seront confirmés par le conseil d'administration. Nous avons stipulé le type d'expertise que nous voulons avoir. La diversité, c'est quelque chose que l'on cherche pour ce panel, aussi bien la diversité géographique que culturelle, mais il y a aussi quelque chose de très important, diversité de tradition juridique et diversité linguistique. Au cas où il y aurait une controverse, on sélectionnera un groupe de 3 membres du panel, un groupe permanent, un membre choisi par chacune des parties en dispute et l'autre par les autres membres. Nous avons établi le droit d'appel du panel permanent au cas où la décision serait impugnée. Il y a des sauvegarde qui proviennent l'abus. Les décisions seront contraignantes pour l'ICANN dans la portée de ce que la loi permet. C'est une décision différente de l'état actuel. Elle a été modifiée. Nous espérons il y a aussi des dispositions par lesquelles la communauté peut faire une révision indépendante en tant que communauté. Le processus de révision est disponible aussi pour des personnes physiques qui sont des entités affectées par l'action ou l'inaction de l'ICANN. Il est très important de connaître tous les détails de ce processus. Et le CCWG a créé un panel de révision indépendante, un groupe de mise en œuvre du panel de révision indépendante qui reflète la diversité de tous les participants et nous allons travailler dans les normes et les détails pour ce groupe dans les mois qui viennent. Il est clair que le statut qui dispose la création du panel indépendant sera antérieur à la période de consultation avec la communauté pour déterminer la manière dont on va gérer la modification au statut. Léon Sanchez reprend la parole. Merci Becky de nous avoir expliqué l'IRP et ce à quoi nous devons nous attendre. Je vais passer la parole à mon coprésident Thomas Rickard qui va nous raconter nos progrès. Merci Léon. Je m'excuse d'être arrivé tard. J'étais dans la réunion de haut niveau gouvernemental et nous voulions être sûrs de ne pas partir avant la fin de la séance. Je vais vous parler sur les dernières diapos. Nous savons qu'il y a 4 composantes de la responsabilité de l'ICANN et le conseil d'administration est une composante très importante. Sans aucun doute, le rôle du conseil sera plus clair une fois que le rôle et les valeurs fondamentales seront redéfinis. Le conseil doit savoir maintenant ce qui est dans sa mission et ce qui n'est pas dans sa mission. Il faut travailler pour savoir la manière dont le conseil doit réagir à l'avis du GAC. C'est une question très sensible au sein de notre groupe. La relation entre le conseil et le gouvernement en particulier a été une question intense au moment des discussions. Vous devez avoir noté, si vous avez lu la transcription, eh bien, je sais que cela a été discuté dans la réunion de haut niveau assez en détail. Nous allons donc continuer à avoir les avis du GAC tels qu'aujourd'hui, mais le système d'avis du GAC a été modifié de telle manière que maintenant, nous avons un seuil de 60% si le Conseil souhaite rejeter l'avis du GAC. Le processus de négociation pour trouver une solution qui soit mutuellement acceptable sera lancé. il est important de clarifier que on parle du Conseil et pas du GAC. On ne dit pas au GAC comment prendre ses décisions, mais le processus pour trouver une solution mutuellement acceptable ne sera initié qu'au cas où il y aurait du consensus au sein du GAC, c'est-à-dire au cas où il n'y aurait pas d'objection formelle. Voilà donc la définition de consensus du principe opérationnel 47 du GAC à ce jour. Cela pour garantir le respect de l'exercice de simulation de crise numéro 18 afin d'éviter des influences gouvernementales excessives dans les opérations de l'ICANN.
La communauté habilitée est une composante très importante de l'infrastructure de la responsabilité. Je suis sûre que Léon a mentionné qu'au début, lorsque notre groupe a commencé à travailler, la question était, maintenant que le gouvernement des États-Unis pense à déléguer l'autorité sur les fonctions IANA, à qui va-t-on céder ces fonctions? La réponse a été, on va la donner à la communauté de l'ICANN. Les 7 organisations de soutien et comités consultatifs font partie de la communauté de l'ICANN et nous estimons que cette communauté a de la place pour tous. Elle a été conçue de telle façon que les consommateurs, les derniers utilisateurs, les entreprises et les gouvernements puissent se faire entendre. Cette communauté habilitée ne s'est réunie que lorsqu'il faut exercer les facultés de la communauté que nous voyons sur l'écran. Donc, ce n'est pas que la communauté habilitée va intervenir dans toutes les opérations quotidiennes de l'ICANN. L'idéal, c'est que ces améliorations dans la responsabilité de l'ICANN et la communauté habilitée ne seront vues que lorsqu'il y aura des problèmes. Mais, de manière générale, la communauté habilitée se réunit pour les pouvoirs de la communauté, le budget, le plan stratégique opérationnel et l'autorité pour opposer son veto à des modifications dans les statuts formels de l'ICANN et la des pouvoirs pour approuver des modifications dans les statuts fondamentaux de l'ICANN. Et vous vous demanderez fort probablement ce que cela signifie, quelle est la différence entre les deux types de statuts. En fait, nous allons avoir un ensemble de statuts, mais il y en aura deux. Au sein de ces statuts, il y a les statuts un peu moins importants, qui sont les statuts généraux, et le conseil d'administration peut décider de les modifier, de les amender. La communauté peut opposer son veto, rejeter ou accepter ces modifications. Mais pour des questions très importantes au sein de ces statuts, ce qui concerne la mission et les valeurs centrales, les valeurs principales quant à l'existence d'un pouvoir judiciaire indépendant et d'autres valeurs, nous avons pensé qu'il devait être plus difficile de pouvoir modifier ces statuts. On doit donc avoir l'approbation de la communauté avant de pouvoir mettre en œuvre ces modifications au statut. Il est important pour nous de pouvoir assurer que le conseil d'administration ne pourra pas dire « Bon, nous allons, par exemple, supprimer le processus de révision indépendante parce que cela éliminerait l'un des outils les plus importants, les joyaux de la couronne du système de responsabilité. » Donc, nous avons ces deux types de statuts. Il y a ensuite les facultés de la communauté liées au conseil d'administration. L'une d'elles concerne la faculté de révoquer des directeurs et la deuxième concerne la révocation du conseil dans son entier. La communauté peut aussi exercer la faculté du commencement d'un processus de révision indépendant. Pour la communauté qui va au-dessus de l'IRP, qui peut être créée par les parties qui ont été, sur lesquelles on a eu un préjudice. Et puis, on peut avoir un autre pouvoir concernant le rejet des décisions du conseil d'administration liées aux fonctions IANA. Comme vous voyez, c'est une liste finie. Il n'y a pas d'autres pouvoirs de la communauté supplémentaires. Voilà, les pouvoirs de la communauté habilités sont ceux-là. Nous espérons que cela sera tout à fait transparent pour la communauté de l'ICANN. Nous avons commencé un processus de rapport et de relations pour le conseil d'administration de l'ICANN. En ce moment, le conseil d'administration se réunit avec la communauté volontairement. Quand il faut adopter le budget, et le conseil communique avec la communauté. Et nous avons estimé que c'était utile ou c'était bon d'avoir le processus qu'on appelle du 3E, en anglais, trois étapes, la participation, l'intervention progressive et la mise en œuvre, ainsi que les rapports à la communauté. Et le rapport avec la communauté est important pour éviter le risque de problèmes entre la communauté et le conseil d'administration. L'idéal serait que cette étape de rapport entre les deux soit suffisante pour que le conseil d'administration comprenne ce que la communauté cherche à avoir et que le conseil développe son plan en fonction et son budget en fonction de ce que la communauté demande. Il y a bien sûr cette, nous espérons ne pas avoir à utiliser la phase d'intervention progressive. Dans certaines étapes, la communauté peut décider de ne pas continuer le processus au cas où la communauté déciderait de ne pas aller de l'avant. Nous avons différents seuils pour cette intervention progressive face aux différents pouvoirs de la communauté. Il est important de dire qu'il y a beaucoup de choses à faire avant que la communauté puisse appliquer les facultés qui lui sont accordées. Pour certaines facultés, il y a un IRP en dernière instance. Et dans ce cas, la communauté peut directement passer à la révocation d'un membre du conseil d'administration au cas où le conseil déciderait d'ignorer ce que la communauté voudrait avoir. Je finis ici. Si vous avez des questions ou des doutes, je peux y répondre. Je passe maintenant la parole à Mathieu. Mathieu Weil prend la parole. Merci, Thomas. Je suis le co-président de la CCNSO. Excusez-moi aussi d'être arrivé en retard à cette réunion. L'ordre du jour était vraiment strict et très serré. Et nous avons accordé beaucoup de temps aux présentations de haut niveau. Ce n'est pas nous qui avons parlé trop longtemps, mais c'est ce qui arrive parfois. Je crois que vous venez d'avoir un tour d'horizon des différentes propositions. Maintenant, nous allons voir plutôt les aspects liés au processus. Le premier point fondamental, parce que notre groupe n'a fait partie que d'un ensemble plus vaste d'initiatives pour présenter la proposition pour la transition de la supervision des fonctions IANA. Bien. Notre proposition, je disais, devait respecter une série de conditions et des dépendances soulignées par le CWG sur la supervision. Et je suis très heureux de pouvoir vous dire que ces dépendances ont été analysées et confirmées par le CWG. Alors, nous avons le feu vert pour aller de l'avant. Je ne vais pas vous dire exactement ce que le CWG nous a demandé. Mais c'est quelque chose, dans tous les aspects de notre proposition, on a vu très clairement, et il était très difficile de tout appliquer l'ensemble des recommandations du CCWG sur la responsabilité et de se dire, nous allons faire seulement ce que le CWG a demandé. Parce que cela concerne tout ce qui se fait dans le domaine de la structure des responsabilités, le cadre de responsabilité. Bon nombre de propositions font partie d'un ensemble. Ce n'est pas des points individuels que l'on peut décider d'appliquer l'une ou l'autre ou pas l'autre. Donc, voilà le calendrier à respecter. Je sais que c'est une partie critique de cette semaine ici à l'ICANN Marrakech. Nous avons présenté notre proposition supplémentaire le 23 février aux organisations membres, pardon, dont trois ont déjà indiqué ou donné leur soutien. Ce sont ALAC, SSA et l'organisation de soutien à l'adressage. Quant aux trois restantes, nous espérons qu'elles nous enverront leurs commentaires ou leurs réponses entre demain et mercredi au plus tard. Nous allons donc avoir une nouvelle réunion en tant que CCWG responsabilité jeudi matin et nous avons prévu, si tout se passe tel que prévu, nous avons prévu de présenter notre rapport au conseil d'administration, c'est-à-dire présenter la proposition au conseil d'administration de l'ICANN en tant que premier point de notre ordre du jour, jeudi. Une fois fait ceci, le conseil de l'ICANN, conseil d'administration, doit analyser la proposition et si tout va bien, le Conseil présentera cela à l'NTIA pour commencer une nouvelle étape dans le processus de transition de supervision des fonctions IANA, où le gouvernement des États-Unis et le Parlement, le Congrès des États-Unis devront réviser la proposition et l'adopter dans les, en temps voulu pour que cette transition puisse avoir lieu. Dans la prochaine diapo, nous avons un rappel pour vous montrer que même si les propositions de la piste de travail sont très importantes de la question de l'amélioration de la responsabilité, ce n'est pas la fin du travail, ça. La responsabilité est une traversée continuelle qui se poursuit. Il y a des façons toujours d'améliorer la responsabilité. Ce n'est pas la fin du travail de renforcement de la responsabilité. Bon nombre de propositions sont là pour garantir que nous aurons ce processus d'amélioration continue. Quant à la responsabilité de l'ICANN, en tant que groupe de travail intercommunautaire, nous avons identifié 7 points où il peut y avoir d'amélioration et sur lesquels nous comptons nous pencher une fois fini le travail de la piste de travail 1. C'est ce que vous voyez sur la diapo. Ce sont des améliorations de la diversité à tous les niveaux de l'ICANN par rapport à l'adhésion dans les équipes de direction, dans toutes les organisations donnant leur soutien à l'ICANN, l'amélioration de la responsabilité des AC et des CSO, bien sûr. Ces comités, ces organisations de soutien ont de nouveaux pouvoirs à partir de cette piste de travail 1. Et ceci implique une amélioration de la responsabilité de ces organisations, même s'il y a certaines recommandations que nous avons présentées et qui abordent ce thème. Il y a des améliorations apportées à la transparence, ce qui comprend depuis les améliorations de l'information documentaire, la politique de diffusion de ce qui est le matériel documentaire, la transparence dans l'interaction entre l'ICANN et le gouvernement. Et il y a d'autres points ou d'autres domaines d'action que nous avons déjà identifiés. Comme Becky l'a dit tout à l'heure, les statuts mentionner notre engagement au point de droit de l'homme, mais il faut travailler sur le cadre d'interprétation encore par rapport à cet engagement concernant le droit de l'homme. Et ceci fait partie de la piste de travail numéro 2. Il y aura d'autres débats et d'autres discussions sur la concurrence et sur les juridictions, les compétences ou la juridiction. C'est un débat qui a des multiples volets. Nous estimons qu'il faut beaucoup travailler sur ce qui concerne la juridiction pour les contrats en ce qui concerne la structure de l'ICANN. Je crois qu'il va falloir travailler intensément en ce qui concerne la juridiction. Il s'agit d'améliorer ou de réviser les statuts mentionnés par l'Ombudsman par le médiateur, pardon. Parce que cette fonction a changé significativement depuis le début des années 2000. Voilà donc tout le travail que nous devons faire. Enfin, finir la piste de travail 1, c'est notre priorité principale aujourd'hui. Mais nous sommes aussi, nous avons un engagement très fort pour respecter, ou pour mener à bien ces améliorations qui ont été indiquées par notre groupe, mais elles n'ont pas été identifiées comme quelque chose qui devait être fini au moment de la transition. Voilà la prochaine diapositive. C'est une invitation à présenter des commentaires et des questions pour vous. Mais rappelez-vous que ce qui est important pour nous apparaît dans nos propositions. C'est un effort de groupe. On apporte les améliorations qu'il faut réaliser et mettre en œuvre avant de faire la transition des fonctions IANA. Et l'un des avantages, l'un des bénéfices importants, c'est que cela garantit qu'il y aura des améliorations futures. Je pense que c'est quelque chose de très important à retenir. Cette capacité de la possibilité des améliorations futures est très importante. Vous verrez ici un rappel des quatre éléments, des quatre composants faisant partie de fondation de notre cadre de responsabilité. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous pouvons commencer à répondre à des questions. Léon Sanchez prend la parole. Merci Mathieu. Je vois que Brenda nous aide avec les questions des participants à distance. Et bien sûr, ceux qui sont ici présents peuvent se servir du micro qui est au milieu de la salle. Nous vous invitons à faire une longue queue derrière le micro pour poser des questions ou faire des commentaires. Est-ce que tu pourrais, Brenda, lire la question d'un participant à distance? Merci Léon, c'est un participant indépendant. Un participant à distance, comment va-t-on choisir le panel indépendant qui serait une espèce de cour suprême de l'ICANN? C'est un rôle critique. Léon Sanchez répond. Merci Brenda, merci Laurie, c'est une très bonne question. Je vais demander à Becky si elle pourrait répondre à ceci. Becky Burr prend la parole, merci. C'est fondamental. Le rapport contient une description générale du type d'expérience et des fonctions et des capacités dont doivent être munis les membres du panel. Nous avons tenu compte aussi d'une activité de sensibilisation pour pouvoir trouver des membres du panel de partout dans le monde afin de garantir que nous aurons les candidats qualifiés reflétant la diversité aussi bien en termes de géographie que de langue et ainsi que en ce qui concerne la perspective des différents systèmes juridiques que nous voudrions voir être représentés dans ce panel. Nous allons faire une activité de sensibilisation pour trouver des membres du panel intéressés et qualifiés. Notre proposition dit que nous allons sélectionner les candidats. Ces candidats seront sélectionnés par la communauté. Ils seront présentés au conseil d'administration de l'ICANN pour la conversation. C'est une espèce de processus ensuite d'identification et de consentement en collaboration avec la communauté de l'ICANN et avec le conseil d'administration pour garantir une communication claire par rapport à la source de cette autorité. Léon Saint-Pierre reprend la parole. Merci de ta réponse, Becky. Comme je vous l'ai dit au début de mon intervention, nous avons présenté notre proposition aux organisations membres pour qu'elles la revisent. Mais il y a une question qui n'est pas encore répondue. Que se passe-t-il au cas peu probable où notre proposition serait rejetée par le conseil d'administration? Je vais demander à Thomas d'expliquer quel serait le processus à suivre au cas peu probable où le conseil d'administration n'accepterait pas notre proposition. Thomas Flicker prend la parole. Merci beaucoup, Thomas. Notre charte explique ceci, en principe. Ce que l'on dit, c'est si le rapport est présenté au conseil d'administration, le conseil va considérer cette proposition, tenant compte du processus défini dans sa résolution du 16 octobre 2014. Cette résolution du conseil d'administration dit que pour les cas où le conseil d'administration considérerait que la proposition ne répond pas à l'intérêt public mondial, il devra voter à cet égard et 2/3 du conseil d'administration devront établir qu'il pense qu'il y a un aspect ou plusieurs aspects de notre recommandation ne répondent pas à l'intérêt public mondial. Et alors, il faut avoir un dialogue avec le CCWG. Le rejet du conseil d'administration n'est pas la fin de tout, mais cela exige que le groupe puisse s'asseoir à table pour trouver des solutions avec le conseil. Certains membres du conseil d'administration nous ont assuré qu'ils n'estiment pas qu'il y aura de problème, qu'ils estiment qu'il n'y aura pas de problème avec ceci. Je suppose que la proposition sera présenté à l'NTI à la fin de cette semaine. Je pense que le conseil d'administration n'aurait pas participé à cette planification s'ils avaient pensé à rejeter tout ceci à la dernière minute. Léon Sanchez reprend. Je voudrais dire que les membres du conseil d'administration ont suivi le travail du CCWG et ils ont participé avec beaucoup d'enthousiasme dans tout ce processus. Ils font des contributions au moment voulu et cela a été très intéressant. Donc, je remercie les membres du conseil qui ont travaillé avec notre groupe. Et s'il n'y a plus de questions de participants à distance, et je ne vois pas de longue queue derrière le micro, je veux donc céder la parole à Steve. Je crois que vous vouliez ajouter quelque chose. C'est Steve Del Bianco qui prend la parole. Lorsque Thomas a expliqué le processus, il a dit qu'il fallait avoir l'approbation du Congrès des États-Unis. Je vais expliquer un tout petit peu plus. Lorsque la transition a été annoncée, le Congrès des États-Unis était très intéressé à savoir quels étaient les plans de la transition. Une série d'audiences, j'ai participé à ces audiences pendant l'été. Le Congrès a passé des lois dans l'une des chambres. Et cette législation disait que l'NTIA devait présenter un rapport au Congrès qui devait dire que l'on avait respecté les quatre conditions de l'NTIA. Et certifié que les modifications dans les statuts avaient été approuvées par la communauté, ils avaient été mis en œuvre par l'ICANN. Cela devrait montrer que le plan de responsabilité de la communauté et la transition de la supervision de l'IANA avait été mise en œuvre et que l'NTIA pouvait dire que le Congrès avait compris et adopté tout cela. Il y a des personnages du Congrès qui ont participé au moins aux quatre dernières réunions de l'ICANN. Donc tout cela est encore revenu à la communauté. C'est ce que nous ne pourrions pas demander mieux. Mais cette législation a décidé ou exigé que le Congrès aurait 30 jours, une période de 30 jours après avoir reçu le rapport pour dire oui ou non à cette évaluation de l'NTIA. Mais cette législation n'a pas été adoptée par le Sénat des États-Unis. Il n'y a donc pas de législation disant que ceci doit être adopté par le Congrès. Il y a eu plusieurs audiences à ce sujet. Nous nous sommes demandé peut-être si nous avons bien fait tout ce qui concernait les exercices de simulation de crise, mais nous n'avons pas besoin d'avoir l'approbation du Congrès des États-Unis pour pouvoir avoir fait notre travail. Léon Sanchez reprend. Puisqu'on parle des tests des exercices de simulation de crise, je voudrais dire que Cheryl et Steve ont été responsables de l'exécution de plusieurs exercices de simulation de crise et ils ont fait un très bon travail. Je vois Avri qui est au micro. Avri Doria prend la parole. Merci beaucoup. On a demandé quelque chose dans mon unité constitutive et j'ai eu honte de ne pas pouvoir y répondre. Voilà pourquoi je le demande maintenant. En ce qui concerne les modifications à l'IRP, est-ce que nous faisons quelque chose à propos de celui qui a la possibilité de légitimer certaines modifications, parce que je suppose qu'à l'heure actuelle, il y a plusieurs questions par rapport à ces limitations, comme en ce qui concerne la participation et aux réponses par rapport à un thème. Moi, je fais partie de l'équipe de l'IRP et j'ai honte de dire que je n'ai la moindre idée de ce que nous devrions faire dans ce cas-là. Becky prend la parole. Nous tenons compte de cette demande d'authentification, de légitimation, quelque chose de typique d'une personnalité physique ou morale pouvant être affectée par une action ou une inaction de l'ICANN en disant que l'on n'a pas respecté les statuts. Nous avons une disposition pour ce qu'est la légitimation de la communauté. La communauté aura reçu sa légitimation par le processus d'habilitation. C'est une modification qui a été ajoutée et nous avons dit clairement aussi que, au cas où au cas où il y aurait un préjudice possible grave, l'on peut avoir recours au panel de révision indépendante pour éviter ce préjudice. C'est comme une espèce d'arrêt d'urgence, une provision de protection constitutionnelle, pour ainsi dire. Mais la norme du préjudice matériel est conservée. Il n'y a aucune modification substantielle là. Pardon, je me reprends. Le statut de cette affectation matérielle n'a pas été modifié. Léon Sanchez, je rappelle à ceux qui veulent poser des questions de bien vouloir dire leur nom pour que ce soit clair dans les transcriptions. Padmini Barois.
Je suis étudiante de droit et je travaille pour le Centre de l'Internet et la Société Internet. J'ai deux commentaires à faire. Premièrement, demander une mise à jour des statistiques depuis Dublin sur le DIDP. Et deuxièmement, depuis le 4 mars, il y a eu 102 demandes qui ont été répondues. De ces demandes, je connais les restrictions existantes statistiquement, et alors 11 ont été répondues en temps voulu et de manière complète. Mais cela ne représente que le 10,8% et 56 des 102 ont été répondues partiellement, ce qui est un peu obscur, et cela représente le 54,9% et 35 des 102 ont été rejetées. Et cela fait le 34,3%. J'essaie de comprendre le fonctionnement du processus de réexamen parce que j'ai essayé de faire appel à des DIDP qui m'ont été déniés. Et alors, j'essayais de faire une analyse statistique. Toutes les demandes de réexamen publiées dans le site web de l'ICANN sont des statistiques que j'adore. Alors, je vais vous donner davantage de statistiques. Il y a eu 144 réponses publiées sur la page. 118 ont été déniées, rejetées, c'est-à-dire 81,9%. 6 ont été retirés par les personnes qui l'ont présenté. Il n'y a pas eu de réponse à cela. Et 8 des 144, et encore de l'an 2000, n'ont pas de réponse. 12 de ces 144, c'est-à-dire le 8,3%, eh bien, le considération de réexamen ou le conseil, le BGC, ont répondu affirmativement. Alors, il n'a pas fallu de faire un réexamen. Pour résumer, 6 demandes de réexamen ont trait à la politique de divulgation documentaire. Elles ont été toutes déniées, c'est-à-dire il n'y a aucun processus formel pour lier ces demandes à une réponse. Le numéro de jours pour répondre à une demande va de 7 jours à plus de 100 jours ou quelque chose du genre. Ceci contredit les statuts qui disent que le comité doit répondre dans une période de 30 jours. Je crois que le CCWG Responsabilité a créé un processus IRP très bon, mais ce processus n'est pas forcément accessible pour quelqu'un comme moi qui n'ait pas les fonds ou les connaissances nécessaires. Le processus de réexamen n'est que le premier pas pour l'appel. Il faut qu'il soit plus indépendant, plus efficace, qu'il soit plus clair, qu'il y ait plus de clarté sur les motifs de rejet. Mathieu prend la parole. Merci du travail que vous avez pris pour rassembler toutes ces statistiques qui nous montrent une analyse objective des mécanismes de responsabilité existants. Nous espérons continuer à recevoir votre participation dans l'avenir, dans la piste de travail 2, car il est clair qu'il nous faut travailler sur des faits, sur la base de faits, pour pouvoir démontrer que nos améliorations font la différence dans la perspective des parties qui demandent un réexamen ou une reconsidération. Alors, je vous remercie et je vous demande de partager avec nous toutes ces données. Bien entendu. Un commentaire, je me rends compte que peut-être la raison pour laquelle cela se passe de cette manière, c'est parce que le BCG est indépendant du Conseil. Je ne sais pas pourquoi il est indépendant du Conseil. Peut-être vous pourriez me donner une précision. Mathieu, pour que vous sachiez tous, le BCG, dans la recommandation 8 de notre présentation, recommande des améliorations qui abordent, entre autres choses, ces retards en plus de l'indépendance pour améliorer le processus. Becky, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais dire que nous avons reçu un grand nombre de commentaires et sur le DIDP qui fait partie de la piste de travail. Il y aura une mise à jour à propos de ce point, en plus de la recommandation 8 que Mathieu mentionnait. Signal nous clarifie les lignes directrices et clarifie les motifs de rejet. Et en ce qui concerne la question qui a été posée, je crois que le réexamen est suffisamment indépendant. L'objectif du réexamen, et maintenant je dois parler de qui présente les demandes de réexamen. L'indépendance de ce point de vue n'est pas la cible principale de l'amélioration. Par contre, c'est l'occasion de se concerner, de s'impliquer, pardon, davantage avec ceux qui prennent les décisions. Il y a d'autres processus, en plus de la révision indépendante, qui constituent une alternative de l'option indépendante. Léon reprend la parole. Oui, merci Becky. Steve Crocker, vous avez dit que vous voulez connaître les finances et les livres comptables. Alors, je vous recommande les recommandations 1 et 2, paragraphes 52 et 53. Les statuts disent que la communauté en tant que désignateur a des droits équivalents si l'on était organisé comme des sociétés avec des membres de l'État de Californie. Toutes les organisations de soutien et des comités consultatifs peuvent demander l'inspection des registres. C'est le premier pas pour les livres et registres. Léon, merci Klaus d'avoir attendu le moment d'intervenir. Klaus Stoll prend la parole. Pardon, je m'appelle Klaus Stoll. Steve, merci de votre explication sur le réexamen. Pour ceux qui n'ont pas familiarisé avec le Congrès des États-Unis, je crois qu'il serait utile de savoir s'il y a une manière pour que le Congrès des États-Unis ait la possibilité d'arrêter la transition. Et de quelle manière pourrait-on éviter cette situation si elle existe? Steve, j'essaierai de vous l'expliquer rapidement. Le Congrès des États-Unis sanctionne des lois et il peut le faire. Hein? Il peut sanctionner une loi et pour cela, et à partir de lobbying, etc., on peut sanctionner une loi de ce genre. Moi, je ne penserai pas à une situation comme celle que vous décrivez. Je crois que le Congrès fera la supervision de la manière appropriée, posera des questions difficiles parce qu'ils n'ont pas été concernés ou impliqués, mais maintenant, ils font attention. Ils poseront les questions correctes. Léon, d'autres questions dans la salle? Je ne vois pas de questions dans la salle. Dans la salle d'Adobe Connect, il y a quelque chose? OK. Alors, nous avons donc fini avec ça 15 minutes à l'avance. Nous tenons à vous remercier de votre attention et nous sommes bien évidemment ouverts à vos questions ou vos questions ou vos commentaires. Nous vous invitons donc à participer du reste de nos réunions. Et aussi, nous espérons que vous pourrez participer de la piste de travail 2.